Des pas sur la neige. Ah, une lettre d'Hortense. La Roncière par Bassicourt le 14 novembre, Prince Rénine, boulevard Haussmann, Paris. Mon cher ami, vous devez me trouver bien ingrate. Depuis 3 semaines que je suis ici, pas une lettre de moi, pas un remerciement. Et pourtant, j'ai fini par comprendre à quelle affreuse mort vous m'aviez arraché et le secret de cette histoire effrayante. Mais que voulez-vous ? Je suis sorti de tout cela dans un tel état d'accablement. J'avais un tel besoin de repos et de solitude. Rester à Paris ? Continuer avec vous nos expéditions ? Non, 1000 fois non. Assez d'aventures. Celles du prochain sont fort intéressantes. Mais celles dont on est victime et dont on manque mourir. Oh, cher ami, quelle horreur ! Comment oublierai-je jamais ? Alors, ici à la Roncière, c'est le grand calme. Ma vieille cousine Hermeline me choie et me dorlote comme une malade. Je reprends des couleurs, et tout va bien de la sorte. Tout va si bien que je ne pense plus du tout à m'intéresser aux affaires des autres, mais plus du tout. Aussi, figurez-vous, je vous raconte cela parce que vous, vous êtes incorrigible, curieux comme une vieille portière, et toujours disposé à vous occuper de ce qui ne vous regarde pas. Figurez-vous donc qu'hier, j'ai assisté à une rencontre assez curieuse. Antoinette m'avait mené à l'auberge de Bassicourt, où nous prenions le thé dans la grande salle, parmi les paysans. C'était jour de marché. Lorsque l'arrivée de 3 personnes, 2 hommes et 1 femme, mit brusquement fin aux conversations. L'un des hommes était un gros fermier vêtu d'une longue blouse, avec une face rubiconde et joyeuse, qu'encadraient des favoris blancs. L'autre, plus jeune, habillé de velours à côtes, avait une figure jaune, sèche et hargneuse. Chacun d'eux portait en bandoulière un fusil de chasse. Entre eux, il y avait une jeune femme mince, petite, enveloppée dans une mante brune, coiffée d'une toque de fourrure, et dont le visage, un peu maigre, excessivement pâle, surprenait par sa distinction et sa délicatesse. « Le père, le fils et la bru !» murmura ma cousine Hermeline. « Comment ? Cette charmante créature est la femme de ce rustaud ?»«
Et la belle-fille du baron de Gorn. »
Un baron ? Le vieux bonhomme qui est là ?
Le descendant d'une très noble famille qui habitait le château autrefois. Il a toujours vécu en paysan. Grand chasseur, grand buveur, grand chicanier, toujours en procès, à peu près ruiné. Le fils Mathias, plus ambitieux, moins attaché à la terre, a fait son droit, puis s'est embarqué pour l'Amérique, et puis ramené au village par le manque d'argent, s'était pris d'une jeune fille de la ville voisine. La malheureuse, on ne sait pas trop pourquoi, a consenti au mariage. Et voilà 5 ans qu'elle vit comme une recluse, ou plutôt comme une prisonnière, dans un petit manoir tout proche, le manoir au puits.
Entre le père et le fils ?
Ah non, le père habite au bout du village, une ferme isolée.
Et le sieur Mathias est jaloux ?
Un tigre !
Sans raison ?
Sans raison, car ce n'est pas la faute de Nathalie de Gorn, qui est la femme la plus honnête, si, depuis quelques mois, un beau cavalier rôde autour du manoir. Cependant, les de Gorn ne dérangent pas.
Comment ? Le père aussi ?
Le beau cavalier est le dernier descendant de ceux qui ont acheté le château jadis, d'où la haine du vieux de Gorn. Jérôme Vignal, que je connais et que j'aime beaucoup, est joli garçon, très riche, et il a juré, c'est le vieux qui raconte cela quand il est pris de boisson, d'enlever Nathalie de Gorn. D'ailleurs, écoutez.
Au milieu d'un groupe qui s'amusait à le faire boire et le presser de questions, le bonhomme, déjà éméché, s'exclamait avec un accent d'indignation et un sourire goguenard dont le contraste était vraiment comique.
« Il en sera pour ses frais que je vous dis, ce belâtre-là. Il a beau faire la maraude de notre côté et reluquer la petite. Chasse gardée ! Oh, s'il approche de trop près, un coup de fusil, n'est-ce pas, Mathias ?»
Il empoigna la main de sa belle-fille.
« Et puis, La petite sait se défendre aussi. Hein, Nathalie, les galants, t'en veux point ?
Toute confuse d'être ainsi apostrophée, la jeune femme rougit, tandis que son mari bougonnait. Vous feriez mieux de tenir votre langue, mon père. Il y a des choses qu'on ne dit pas tout haut.
Oh. Les choses qui tiennent à l'honneur, ça se règle en public. Pour moi, l'honneur des De Gornes, ça passe avant tout. Et c'est pas ce Godelureau-là avec ses airs de parisien.
Il s'arrêta net. En face de lui, quelqu'un qui venait d'entrer paraissait attendre la fin de la phrase. C'était un grand gars, solide, en costume de cheval, la cravache à la main, et dont la physionomie énergique, un peu dure, était animée par de beaux yeux qui souriaient ironiquement.
« Jérôme Vignal !»
souffla ma cousine. Le jeune homme ne semblait nullement embarrassé. Apercevant Nathalie, il la salua profondément, et comme Mathias de Gorne avançait d'un pas vers lui, il le dévisagea, ayant l'air de dire « Eh bien, et puis après ?» Et l'attitude était si insolente que les De Gornes détachèrent leurs fusils et les empoignèrent à deux mains comme des chasseurs à l'affût. Le fils avait un regard féroce. Jérôme demeura impassible sous la menace. Puis, au bout de quelques secondes, s'adressant à l'aubergiste, « Dites donc, j'étais venu pour voir le père Vasseur, mais son échoppe est fermée. Vous voudrez bien lui donner la gaine de mon revolver qui est décousue, n'est-ce pas ?» Il tendit la gaine à l'aubergiste et ajouta en riant « Je garde le revolver au cas où j'en aurai besoin. Sait-on jamais ?» Puis, toujours impassible, il choisit une cigarette dans un étui d'argent, l'alluma au feu de son briquet et sortit. Par la fenêtre, on le vit qui sautait sur son cheval et qui s'éloignait au petit trot.
« Crébleu de bon sang !»
jura le vieux De Gorne en avalant un verre de cognac. Son fils lui colla la main sur la bouche et le contraignit à s'asseoir. Près d'eux, Nathalie De Gorne pleurait. « Voilà, cher ami, mon histoire. Comme vous le voyez, elle n'est pas palpitante et ne mérite pas votre attention. Rien de mystérieux là-dedans. Aucun rôle à jouer pour vous. Et j'insiste même particulièrement pour que vous ne cherchiez pas là le prétexte d'une intervention qui serait tout à fait inopportune. Évidemment, j'aurai grand plaisir à ce que cette malheureuse femme qui, paraît-il, est une vraie martyre, soit protégée. Mais je vous le répète, laissons les autres se débrouiller et restons-en là de nos petites expériences.